Donc, on va parler de la notion de la jeunesse racisée et de la désenfantisation.
Merci Sarah. Alors c'était le troisième axe de cette table ronde, je répète, jeunesse racisée et désenfantisation. Fatima, tu parles beaucoup de la liberté de circuler comme une convergence possible entre les luttes antiracistes, décoloniales, écologiques, trans et féministes. Ici, dans nos territoires, les jeunes exilés sont réprimés et harcelés par l'État. L'institution remet toujours en question leur statut de mineur. Comment le traitement des jeunes racisés dans les politiques de sécurité, d'éducation ou d'environnement reflète-t-il, selon toi, un refus de les voir comme des enfants à protéger? Et si tu pouvais nous expliquer ce que tu entends par désenfantisation?
Oui, alors déjà, dire effectivement que dans les quartiers populaires, tout à l'heure, je parlais de la notion de sans-terre. Je disais, voilà, bah, je pense que ce qui peut le mieux définir la population non blanche et musulmane qui vit en France, hexagonale et en Europe, c'est le fait d'être sans-terre. Ce qui mène, en fait, à cette condition de sans-terre, c'est notamment les contrôles policiers qui s'exercent dans les quartiers populaires pour rappeler, pour signifier aux jeunes des quartiers populaires que cette terre n'est pas la leur, qu'ils ne sont pas de là-bas, ils ne sont plus de là-bas, qui sont nés là, mais qui ne sont pas d'ici non plus. Donc voilà, on voit bien comment ce processus de désancrage passe par le dispositif policier. Si je peux me permettre de dire, mais vraiment très très rapidement, que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un moment, alors on le dit souvent et on le dit régulièrement, à un moment un peu charnière où l'extrême droite et les fascistes de tous bords travaillent à un dilemme et à une impasse. Travaille à ce que la France, l'État français, la société française se trouve face à des enfants de l'immigration qu'elle n'a pas choisi, c'est-à-dire qu'on a fait venir ici en France hexagonale des bras, des travailleurs pour reconstruire la France, reconstruire l'Europe, etc. Donc voilà, on voulait des bras, on voulait pas forcément de cette masse dangereuse qui grouille dans les quartiers populaires et dans les collèges de France. Et l'extrême droite travaille à ce dilemme où en fait la France se dit mais alors ces enfants-là qui grouillent. Cette masse démographique importante et dangereuse, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais les assimiler? Est-ce que je peux les assimiler? Ou est-ce qu'il faut, à un moment donné, dans la mesure où cette masse n'est pas assimilable, n'est pas intégrable, est-ce qu'il faut que je m'en débarrasse? Et de plus en plus, vous avez remarqué, l'extrême droite pousse vers une impasse, c'est-à-dire vers cette idée que ces gens-là ne sont pas assimilables, on n'y arrive pas. Ils portent des foulards, ils posent des bombes, on ne peut pas leur faire confiance. D'ailleurs, les filles qui portent un foulard, avant c'était des victimes, maintenant c'est des agents du système et elles sont manipulatrices, etc. Et on est en sécurité nulle part, ça peut être le voisin, ça peut être la voisine, etc. Donc l'extrême droite pousse à ça, faire de ses enfants, nos enfants, non blancs et musulmans encore une fois, une classe dangereuse. Et il y a besoin, pour en faire une classe dangereuse, de les désenfantiser, c'est-à-dire de les considérer comme une menace démographique, un problème à régler, et pas comme des enfants. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Comme Ali », où le personnage principal, Ali, dit « j'ai 9 ans, pratiquement 10 ans, mais je ne suis pas un enfant parce que je suis arabe ». Et les Arabes ne sont jamais des enfants, les Arabes, ce sont des Arabes. Ben c'est ça la désenfantisation, c'est traiter des individus enfants d'un groupe donné comme les adultes discriminés du dit groupe. C'est ce qui est arrivé notamment à Naël. Voilà, Naël, il n'a pas été traité comme un adolescent, comme un enfant. Il a été traité comme un problème. Il n'avait pas le permis et donc il méritait de mourir. Mais je pense que cette tension dans laquelle se trouve l'État français, les autorités françaises et les partis politiques, et notamment l'extrême droite, et malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas des groupuscules, c'est le premier parti de France aux européennes, donc c'est dire le danger. C'est là où je dis qu'on est à un moment important. C'est-à-dire, voilà, parfois, la France peut nous dire non, ces enfants, ce sont aussi nos enfants. Et ce sont des enfants déjà, et ils font partie de la société. Mais on sent bien à quel point ça peut basculer de l'autre côté en considérant non, mais vraiment, ces enfants, on peut rien en faire et il faut s'en débarrasser. Je finis juste sur un mot pour dire que ce qui se passe à Gaza, c'est ce que j'ai dit pour commencer tout à l'heure. En fait, il faut aussi le voir comme un... Pour le coup, tu posais la question du laboratoire. Qui est le laboratoire de qui? Moi, je pense que vraiment, la manière dont on traite les enfants à Gaza, donc pas comme des enfants, comme un dommage collatéral, comme un problème démographique, comme une menace terroriste à venir. C'est ce que dit l'État colonial et génocidaire israélien. Il dit pour notre sécurité, on a besoin de se débarrasser de cette menace terroriste à venir. Mais cette manière d'envisager ces enfants-là à Gaza, ces enfants qui ressemblent beaucoup à nos enfants quand même, en fait, il faut aussi le voir comme quelque chose qui peut influer sur les politiques ici. C'est-à-dire normaliser l'idée qu'on peut se débarrasser comme ça de dizaines de milliers de gosses, donc tuer, je compte pas les disparus, je compte pas les blessés, je compte pas les amputés, les mutilés, je compte pas les traumatisés. C'est-à-dire que tu te dis, mais cette menace démographique, bah, ma solution, bah, c'est de l'éliminer et de la déporter. Ça, faut pas croire, hein, ça donne des idées ici à des gens qui sont déjà foncièrement suprémacistes, racistes et islamophobes. C'est-à-dire, en fait, on leur dit, bah, voyez ce que vous avez en tête là, qui traîne dans vos cerveaux de fachos. Cette possibilité, cette option de ce qu'ils appellent en France la remigration, face au grand remplacement, au risque de grand remplacement, bah, vous voyez, l'État colonial et génocidaire israélien, eh ben, il met en œuvre ça et ça marche. C'est couronné de succès de leur point de vue. Ils ont réussi à se débarrasser de dizaines et de centaines de milliers d'enfants aujourd'hui ou demain. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer, en fait. Moi, je pense que c'est ce qui fait pour beaucoup l'angoisse, l'inquiétude, notre inquiétude quand on a des enfants qui ressemblent encore une fois aux enfants palestiniens, des enfants non blancs, des enfants africains, des enfants musulmans. Quand on a ces enfants-là, lorsqu'on les fait grandir sur cette terre-là, je pense que ce qui fait notre inquiétude, c'est ça aussi, au-delà évidemment de l'empathie qu'on peut ressentir pour le peuple palestinien. C'est aussi, mais voilà, ce qui arrive aux enfants palestiniens, ça peut arriver aussi à nos enfants. En tout cas, je soumets ça à discussion avec vous. Voilà, dans quelle mesure, en fait, il faut aussi se préparer à ça. Moi, je travaille pour que ça n'arrive pas, évidemment, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête. C'est possible dans ce pays qui a déjà exterminé. C'est pas, voilà, la France, elle n'est pas, comment dire, elle ne découvre pas la déportation, elle découvre pas les massacres et l'extermination. On vient de peuples qui en ont subi les conséquences par le passé.
Et c'est un exemple concret de cette désenfantisation, hein, de ce traitement différent. Ce sont les mineurs isolés. Donc c'est une accroche toute trouvée pour vous présenter le collectif Binkadi. Et ce sont des gens qu'on ne voit pas ou qu'on refuse de voir, mais en tout cas, on ne leur donne pas la parole. Donc je vais me taire tout de suite et donner la parole à Moussa pour présenter son expérience à lui et son collectif.
C'est bon. Chap, là. Je sais pas si tu as.
Un boulet. Ah, okay. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis un membre du collectif Binkadi. Je m'appelle Moussa Bala Camara. Bah, je vais vous faire parler le collectif Binkadi depuis qui. Le collectif a été créé. Bah, je vais vous faire parler de son parcours jusqu'à là et ce qui ne va pas avec les mineurs isolés. Donc, c'était ça quoi, d'abord. Nous sommes le collectif Binkadi, collectif des jeunes mineurs isolés à Marseille. Le collectif a été créé le 31 juillet 2024 suite à l'occupation de l'église Saint-Ferréol du Vieux-Port. À notre arrivée en France, dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, nous sommes vus comme des dangers pour la France à cause de notre couleur de peau. Ici, on nous demande de nous intégrer comme si nous venions tout droit de la jungle, comme si notre humanité devait être prouvée face au rejet et au mépris de l'État. Abandonnés dans la rue et livrés à nous-mêmes, sans logement, sans nourriture ni le titre de transport, c'est face à cette injustice que nous avions décidé de prendre notre destin en main pour dénoncer ces faits qui conduisent beaucoup de dangers d'entre nous à faire les choses illégales. Nous demandons des logements dignes à la mairie et à l'État un accès à l'éducation et une prise en charge, nous défendons toute forme d'injustice avec notre dernière énergie. Et je voulais augmenter un peu de plus à propos de ce qui ne va pas avec nous, les mineurs isolés de Marseille. Depuis qu'on est venu ici, on est venu par une voie qui est très dangereuse, là où on peut perdre la vie. On risque de traverser la mer Méditerranée pour être en Europe. Donc, si on est là aujourd'hui, on souhaite d'avoir une vie meilleure, mais qui n'est pas comme ça, de la sorte qu'on nous traite étant comme un danger pour l'Europe ou un danger pour la France. Et nous sommes là pour réclamer à nos droits qui n'ont pas été donnés. On réclame d'être scolarisé et avoir un logement digne de nom, mais impossible de le faire. Et il y a les jeunes aujourd'hui parmi nous. Moi, j'habite à l'hôtel, hein, mais il y a nos collègues qui ne sont pas dans la situation, qui rien ne va de leur côté. Ils n'ont pas de l'école, ils n'ont pas de logement. Et ils sont là, ils réclament aussi. Ils veulent être scolarisés, ils veulent avoir un logement, mais pas encore. Donc, on a décidé de faire un campement. Donc, c'était pour vous mettre au courant, si, pour le soutien, pour nous soutenir. Le jour qu'on va fonder notre campement, donc ça sera un campement pour le mois prochain, si Inch'Allah. Vendredi prochain. Le vendredi prochain, ça sera ça. Donc, je tiens à vous informer pour nous soutenir de plus, pour nous donner le courage. C'est le collectif Binkadi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Merci. Alors, le quatrième axe qu'on vous avait présenté, c'est l'impérialisme et climat. Alors, le col... Non, pardon. Si, me semble que... Ah, pardon, excusez-moi, ouais, tout à fait. Alors, oui, on a encore peut-être deux petites questions. Une. Alors, comment créer, selon vous, des espaces écologiques sécurisants, éducatifs et politiques pour les jeunes ? Alors, peut-être que cette question s'adresse à Fatima et peut-être à CH3 aussi. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer par parler.
CH3, on répète la question, peut-être ? Oui, s'il vous plaît, on peut répéter la question ?
Alors, la question à 1 million, c'était comment créer des espaces écologiques sécurisants, éducatifs et politiques pour les jeunes, et notamment les jeunes comme les mineurs isolés, donc le collectif Binkadi qui nous parle qu'à raison de ne pas avoir de logement, quand même, ils sont obligés de faire des campements, ils sont obligés de lutter pour des droits qui sont normalement acquis. Hein. En France, on ne lutte pas pour ces droits-là, c'est acquis à tout le monde. Donc comment créer ces espaces, comment se réapproprier nos terres, hein, comme tu disais Fatima, et comment faire pour soutenir les personnes qui en ont le plus besoin, comme les membres du collectif Binkadi.
Et bonjour, merci. On m'entend ? Oui ? Ok. Et on voulait vous parler d'une lutte qui a lieu dans notre quartier et que c'est une lutte qui est menée depuis presque 10 ans aujourd'hui et que c'est justement un espace qui aujourd'hui est, on n'a pas pu s'approprier ou en tout cas, et que c'est le jardin Léva et son couvent. Donc c'est un espace justement où on essaye depuis des pratiques de quartier, de se réapproprier de cet espace, dans la question de justement qu'est-ce que c'est de la terre, qu'est-ce que c'est de s'approprier de la terre, d'apprendre à soutenir une amitié avec elle. Et c'est un lieu qui a été, on va dire, donné à des artistes, dont j'ai aucun problème avec les artistes en soi, mais c'est un endroit qui a été fermé. Et en fait, vraiment, on nous a confisqué en fait cet espace. Du coup, je le nomme parce que on a l'impression que à chaque fois aussi, et beaucoup de fois, on nous enlève aussi les droits de parler de certains espaces et dire cet espace nous appartient. Donc pour revenir à la question aussi de comment on nous vole, en fait, aussi pour dire non, mais c'est très bien ce qui est fait là. Parce que regardez, c'est un espace ouvert, grâce à des luttes en fait, parce que cet espace il était ouvert exclusif aux résidents artistes. Et grâce à des luttes qui ont été menées, aujourd'hui c'est un espace qu'on peut petit à petit se réapproprier grâce à des luttes, etc. Mais c'est aujourd'hui un espace qui nous appartient pas et pour lequel on lutte. Donc juste je voulais faire un point sur ces lieux en spécifique. Et...
Bravo. Du coup, puisqu'on parle d'espace et que le collectif des habitants organisés du 3e, pour l'instant, on n'a pas des espaces appropriés, on n'a pas des grands locaux. Ça fait plus de 3 ans qu'on cherche des locaux avec d'autres collectifs, des camarades, des amis, et que c'est difficile d'en trouver. Et du coup, on a, dans notre collectif, on a pas mal de campagnes, c'est comme ça qu'on dit. On a un espace enfant. Et cet espace enfant, l'objectif, c'est de faire en sorte que des adultes, des enfants et des parents puissent faire des choses ensemble, mais en même temps donner du temps aux parents. Mais ce qui est important, c'est de se dire que c'est quoi l'espace, en fait. Ça peut... Voilà, puisqu'on n'a pas d'espace dédié, partout on va, quand on est ici à la Frate, quand on est au couvent Leva, qui est important pour nous, parce que c'est un espace qui doit être public. Et quand on est dans nos petits locaux au 58 rue Toussaint, et quand on est dans d'autres lieux, on essaie de faire un espace pour pouvoir faire des choses avec les enfants et que ces enfants... qu'il y ait une différence entre ce qui se passe à l'école, voilà, l'éducation à l'école, et l'éducation de se dire que, OK, on est là, on veut faire des choses à la fois avec des enfants, mais en même temps, on est dans, on va dire, on est dans les mêmes rapports, en fait. Ce rapport-là, pour ne pas désenfantiser à la fois les enfants, mais en même temps, de faire en sorte que les adultes ne puissent pas, en fait, se dire que, OK, on est des adultes, c'est nous qui décidons, non. On essaie d'avoir un rapport quand même, des rapports sains, qui est quelque chose d'important, d'avoir ce rapport sain, d'avoir ce rapport à dire que les enfants, ils ont beaucoup de choses à dire sur leur quartier, sur les endroits où ils vont et tout ça. Du coup, on a quand même un peu travaillé avec la carte du 3e arrondissement et que les enfants puissent dessiner quels sont les endroits qu'ils ont envie d'être, quels qu'ils ont envie qu'il y ait dans le quartier et aussi des endroits d'inconfort, etc. Et tout ça, c'est juste pour dire un peu ce côté-là sur la question des enfants qui est pour nous important, même si voilà, en soi, la campagne, voilà, elle n'est pas aussi... on va dire avancer que ça, mais c'est ça l'idée, en fait, de pouvoir faire des assemblées avec les enfants, pas que des assemblées d'enfants, mais les assemblées entre les adultes et les enfants, qu'on puisse faire ensemble et aussi, on va dire, décloisonner cette question d'enfant, comme si l'adulte, voilà, doit, de toujours l'enfant d'être à la hauteur de l'adulte, mais de faire une ville, comme ça se dit à Marseille en ce moment, c'était ça il n'y a pas longtemps, de dire qu'une ville à la hauteur d'enfant. Voilà.
Oui, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais réinsister à propos donc des lieux, comme viennent de le faire les camarades. Oui, je pense qu'il faut vraiment que les militants, militantes fassent déjà un état des lieux. Des tiers-lieux en France, des endroits qui se revendiquent de l'émancipation, des quartiers populaires, de l'écologie populaire, etc. Il faut qu'on fasse un état des lieux et de constater combien de ces lieux, dits tiers-lieux ou autres, sont directement gérés par les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Quasiment pas, en fait, en réalité. Je pense que déjà, il faut commencer par ça, dire où on en est aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous mobiliser en réalité ? En réalité, encore une fois, ce sont très, très gentils, les gens qui mettent à disposition leur espace, etc., mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on puisse effectivement avoir des lieux pour nous, pour élever nos enfants, faire grandir nos enfants, pour nos activités, etc., etc. C'est vraiment important. Donc, il faut attraper la cravate de la France Insoumise, des syndicats, de la CGT, ils ont plein de lieux partout, la CGT, les syndicats, ils en ont plein. Il faut leur attraper les boucles d'oreilles, tout ce qu'on peut, pour leur dire, pour les mettre autour de la table, leur dire, surtout en période de campagne électorale, c'est important, en fait, en période de campagne électorale, ce qu'on ne peut pas obtenir là, aujourd'hui, on ne l'obtiendra jamais. Donc c'est maintenant qu'il faut leur attraper les boucles d'oreilles et les obliger à poser la question du partage de la terre. Dans quelle mesure nous aussi on peut faire grandir nos enfants encore une fois sur cette terre-là. Exemple à Verdragon, nous on a effectivement mené un projet à hauteur d'enfant autour de, du manga One Piece. C'était incroyable parce qu'on avait un lieu, on n'aurait pas pu le faire sinon. On a travaillé avec toutes les institutions culturelles de la ville depuis Verdragon. On a plié tout le monde. Le conservatoire, le théâtre de l'échangeur, le cinéma arrêt, etc. On les a obligés à venir à hauteur de nos enfants, à nous, des quartiers populaires, sur un truc qu'ils aiment, One Piece. Et on se dit on va le faire sur DBZ, on va le faire sur Naruto, on va le faire sur d'autres choses en fait qui les intéressent. Et c'est leur ville et ils peuvent y circuler tranquillement. On a bloqué l'accès des voitures par exemple aux routes ce jour-là pour leur dire voilà les routes en fait c'est pas pour les voitures, c'est pour vous. D'ailleurs c'est la police qui a dû bloquer les voitures et donc voilà la police là pour la seule fois a été utile. Je voulais dire aussi deux petites choses. La première c'est concernant nos enfants. Franchement je m'adresse ici aux parents qui sont là, on a quand même bien bossé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand moi, je regarde nos enfants, parce que nous, on marche toujours avec les épaules un petit peu arrondies, un peu. Je les vois, les filles. Moi, j'ai une fille, elle fait du foot avec sa bande de filles. Elles sont droites. Elles ont des cheveux comme ça, le regard qui pétille, une fierté assumée. L'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Elles avancent, elles marchent. On a quand même bien bossé. Je veux dire, on en est là. Et attention, parce que c'est pour ça aussi qu'on s'en prend à nos gosses. Pourquoi ils s'en prennent aux adolescentes dans les collèges qui portent des robes, des belles robes comme... Pourquoi ? C'est parce qu'elles cartonnent, elles réussissent, parce qu'elles sont fières d'elles, parce qu'elles sont fières de leurs parents, fières d'être musulmanes, fières de leur religion, fières de leurs origines, fières de leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à nous. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à nos enfants. On n'est pas que des victimes. Nos enfants ne sont pas que des victimes. Moi, franchement, je suis impressionnée par nos gosses. Ils en imposent. Voilà. Et dernier petit point, il y a un des espaces aussi qu'il faut absolument qu'on mobilise, c'est la culture. C'est les espaces culturels. Le théâtre, le cinéma, les documentaires, raconter nos histoires, raconter la beauté de nos enfants, justement, leur raconter des contes, leur raconter des histoires où ce sont les héros, les héroïnes, où ils sont au centre, il leur arrive plein de trucs et ils gagnent à la fin. Et c'est ça aussi qu'il faut investir. Il y a la bagarre, donc nous, on est militants et militantes, on fait la bagarre, mais il y a aussi la beauté et il y a aussi la transmission, etc. Donc la culture, c'est un enjeu primordial, d'autant que c'est l'espace culturel le plus raciste de l'univers. Il faut le savoir, l'espace culturel, c'est l'espace le plus raciste. Et donc, c'est là qu'il faut aller et envoyer tout ce qu'on a d'artistes, de cinéastes, d'écrivains, de tout ça. Il faut les balancer à fond sur l'espace culturel et y braquer le pouvoir aussi. Voilà.
Ben, si on reste sur la thématique de la culture, vu qu'on a eu un petit couac tout à l'heure, je vais vous reparler de Danil, qui est un chanteur algérien, et on va l'écouter tout de suite avant de passer à la suite. Et il passe à Alger le 30 juin et à Annaba le 1er juillet. Donc la chanson s'appelle Chichi, parce que la culture, c'est pas que faire la fête comme les Blancs. Nous aussi, on sait danser, nous aussi, on sait faire la fête. Donc je vous laisse écouter et on se retrouve tout de suite pour la fin. Merci beaucoup.
J'arrive. Les délbocas, j'aime quand ça s'agite. Ce soir j'oublie celle qui hante ma messagerie.
J'oublie la scène.
Y'a des ans j't'aurais insulté ta mère. Mais bon j'me suis assagi. Bon j't'ai fait le corbolé. Ce soir faut pas m'parler. J'suis dans ma zone, reste dans ta zone.
La zone.
On connaît pas le carré. Ambiance voiture carré. Le pire c'est que c'est même pas la nôtre. Demandez-le ce que j'suis capable de faire. Demandez-le. Tellement d'erreurs. Dans cette dounia j'ai fait tellement d'erreurs. Mais bon, ce soir on fait la chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi. Ce soir on fait la chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi
si tu m'invites, t'invites mes gros, ça fait partie du deal. C'est nous la jeunesse contre plaqué que la nuit répudie. Paire d'araignée, jogging large, je me suis fait recaler. Alors qu'il y a mes sons qui passent dans le carré.
Demandez-le ce que je suis capable de faire. Demandez-le. Tellement d'erreurs. Dans cette dounia j'ai fait tellement d'erreurs. Mais bon, ce soir on fait la chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi. Ce soir on fait la chichi. Chichi giri chichi chichi.
soir comme si j'avais fait le mini. Rallini. Je suis sous Mirinda, chez nous on boit pas de Bellini. Rallini. Je vais danser ce soir comme si j'avais fait le mini. Rallini. Laisse-moi faire la chichi toute la nuit. Ce soir on fait la chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi chichi. Chichi giri chichi. Ce soir on fait la chichi.